Laudetur Jesus Christus.
L'aide humanitaire à Gaza reprend timidement depuis Rafah. Nous irons en Égypte alors que les craintes s'accroissent d'une extension totale des opérations israéliennes dans toute l'enclave palestinienne. La Thaïlande et le Cambodge prolongent leur accord de cessez-le-feu qui reste fragile. En témoigne le retour au Cambodge de milliers de travailleurs migrants cambodgiens en Thaïlande. La résurgence d'un conflit frontalier en Amazonie, Pérou et Colombie se disputent une île, fragilisant la population autochtone. Chaos sécuritaire en Haïti, l'Église fait tout son possible pour panser les plaies du pays, notamment après le dernier enlèvement dans un orphelinat. Témoignage dans ce journal de Monseigneur Jean Désinor.
Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
Bonjour. La perspective d'une occupation totale de Gaza inquiète jusqu'à l'armée israélienne. Le Premier ministre Netanyahou doit présider en fin de journée un cabinet de sécurité en charge des questions militaires. Dans l'enclave où 20 personnes sont mortes hier dans le retournement d'un camion de vivres sur la foule, l'aide peine toujours à entrer, notamment côté égyptien. Le régime d'El-Sissi tient pourtant à montrer le contraire. Une conférence de presse vient d'avoir lieu à Rafah. Notre correspondante sur place, Justine Babin, s'y est rendue.
Dans une mise en scène soigneusement orchestrée, le gouverneur du Nord Sinaï, Ralen Megawer, a pris la parole, entouré de aides d'honneur de jeunes en chasubles estampillés de noms d'ONG proches du pouvoir. Objectif, prouver que l'Égypte fait sa part.
Ce que vous voyez ici, ces jeunes, ces camions, certains revenants vides de Gaza, montrent bien que nous travaillons dur pour faire passer l'aide. Nous jouons notre rôle, quoi qu'en dise la propagande, et le monde entier peut en être témoin.
Si le terminal de Rafah reste fermé, les convois ont repris depuis une dizaine de jours via le point de passage de Kerem Shalom, un poste frontière voisin contrôlé par Israël. Plus de 800 camions ont ainsi été acheminés depuis l'Égypte, mais beaucoup restent bloqués. En cause, des contraintes imposées côté israélien, comme l'explique Amal Ayman, directrice exécutive du Croissant Rouge égyptien.
Il arrive parfois que les camions arrivent trop tard pour leurs horaires de travail ou que les scanners ne fonctionnent pas ou que la capacité d'accueil du terminal soit saturée. Parfois, on nous demande de tout reconditionner sur d'autres palettes. D'autres fois, on nous dit tout simplement que le terminal est fermé. Et là, on ne peut rien faire.
Mercredi encore, plus de 70 camions qui avaient été autorisés à passer par les autorités israéliennes ont finalement été bloqués à la frontière. Plusieurs transportaient de l'aide alimentaire, pourtant vitale pour les millions de Palestiniens menacés de famine.
Justine Babin, notre correspondante en Égypte. L'Égypte qui accueille le Premier ministre soudanais pour sa première visite officielle à l'étranger. Kamil Idriss doit s'entretenir avec le président Al-Sissi. L'Égypte soutient le pouvoir militaire soudanais dans la guerre l'opposant depuis plus de 2 ans aux paramilitaires. Le pays a frété d'ailleurs la semaine dernière de nombreux trains gratuits pour amorcer le retour de certains réfugiés soudanais alors que d'autres tentent encore de fuir. L'autre dossier brûlant de ce jeudi 7 août, c'est la rencontre annoncée comme imminente entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Évoquée par la Maison-Blanche, elle est confirmée ce matin par le Kremlin pour ses prochains jours. La Russie écarte toutefois le sommet à trois avec Volodymyr Zelensky qui lui insiste pour négocier directement avec son homologue russe. En Asie du Sud-Est, la Thaïlande et le Cambodge prolongent leur accord de cessez-le-feu. Les deux pays l'annoncent dans une déclaration conjointe. Ils poursuivent le gel des mouvements et des patrouilles de troupes frontalières. Depuis le début des affrontements meurtriers, toutefois, des centaines de milliers de Cambodgiens ont fui le territoire thaïlandais, 700 000, soit sur une main-d'œuvre totale estimée à plus de 1 million de personnes légaux ou illégaux. Mercredi, des dizaines de milliers affluaient encore valise à la main vers les postes frontières à Bangkok. Notre correspondant Valentin Sébron a rencontré une avocate thaïlandaise spécialisée dans la défense des travailleurs migrants.
De la haine en ligne au passage à l'acte, en Thaïlande, après les appels lancés par des influenceurs d'extrême droite à traquer les Cambodgiens, plusieurs travailleurs migrants ont été pris pour cible, insultés, menacés, parfois même roués de coups. L'avocate Kolio Manuche défend les travailleurs étrangers.
Depuis les affrontements, ce ne sont plus seulement les États qui s'opposent. À l'échelle individuelle aussi, l'autre est perçu comme un ennemi. Certains Thaïlandais vont patrouiller dans les marchés ou frapper aux portes pour identifier les Cambodgiens et s'en prendre à eux. Beaucoup de migrants ont peur. Ils ne se sentent plus en sécurité.
Ceux qui n'ont pas fui vers le Cambodge préfèrent se faire discrets, comme au plus fort de la pandémie lorsqu'ils étaient déjà stigmatisés.
Ils ne sortent pas, ils s'isolent comme à l'époque du Covid. Certains vont même jusqu'à se se mettre de la tanaka sur le visage pour se faire passer pour des Birmans. C'est une manière de se protéger.
L'avocate rappelle aussi le rôle clé de cette main-d'œuvre dans l'économie thaïlandaise.
La Thaïlande est déjà une société vieillissante. On manque clairement de main-d'œuvre, notamment non qualifiée, parce qu'on utilise encore peu de technologie pour compenser. On a besoin d'eux, on ne peut pas le nier. Et eux aussi ont besoin de travailler.
Mais selon elle, les centaines de milliers de Cambodgiens qui sont déjà partis ne sont pas prêts de revenir, malgré le fragile cessez-le-feu entre les deux pays.
Valentin Sébron, notre correspondant à Bangkok. 16 entreprises chinoises de la tech perquisitionnées ce matin à Taïwan. Elles sont soupçonnées par les autorités taïwanaises de voler les secrets de l'industrie des semi-conducteurs, dont l'archipel est une puissance mondiale. En Europe, l'Allemagne va de nouveau prolonger ses contrôles aux frontières, annonce le ministère de l'Intérieur. Au nom de la sécurité intérieure, la première économie d'Europe avait rétabli des contrôles temporaires à toutes ses frontières le 16 septembre 2024 pour une durée de 6 mois. Tandis qu'en Angleterre, le ministère britannique de l'Intérieur annonce, lui, pour sa part, les arrestations de premiers migrants sous le coup du traité franco-britannique entré en vigueur ce mardi. C'est un conflit frontalier non migratoire mais territorial qui agite la Colombie et le Pérou. Au cœur de l'Amazonie, une île que Bogota accuse Lima de s'être tout simplement appropriée. Le gouvernement colombien parle d'un geste unilatéral qui inquiète les populations locales. Bogota, Camille.
C'est une petite île située dans le fleuve Amazon du nom de Santa Rosa. Ce banc de sable qui fait face à Leticia, ville colombienne, s'est formé après 1929 et le partage officiel de la triple frontière entre la Colombie, le Pérou et le Brésil. Problème, le Pérou y a récemment installé un poste de contrôle et hissé son drapeau, rompant ainsi un processus de dialogue engagé avec la Colombie à ce sujet. Bogota crie à l'appropriation illégale. Depuis des années, la Colombie soutient la nécessité d'un travail binational pour l'attribution des îles et a réitéré sa position selon laquelle l'île de Santa Rosa n'avait pas été attribuée au Pérou. Au-delà du différend diplomatique, c'est toute une population riveraine qui se sent menacée. Accès bloqué, commerce perturbé, navigation restreinte. Le Pérou, lui, campe sur ses positions et affirme respecter les accords existants. Une querelle de frontières dans une région où les communautés indigènes, déjà fragilisées, craignent d'être une fois de plus les oubliés du dialogue. Bogota, Camille Bouju pour Radio Vatican.
Et les Haïtiens continuent de subir les violences meurtrières des gangs et les enlèvements. Le dernier cas ayant eu lieu dans l'orphelinat Sainte-Hélène. 9 personnes ont été enlevées, dont une missionnaire laïque irlandaise et un enfant handicapé de 3 ans. Des paroisses sont fermées dans la capitale, témoigne Monseigneur Jean Désinor, évêque de Hinche.
L'Église a toujours élevé la voix devant des situations d'abus, de violence. Pas parce que l'Église est victime, hein, elle le fait pour tous les cas, mais l'Église aujourd'hui est l'une des victimes de cette situation. À Port-au-Prince, par exemple, l'archevêque disait qu'il y a environ près d'une trentaine de paroisses qui sont fermées parce que les gangs ont chassé les gens de ces territoires. Trouver un espace aujourd'hui pour s'habiliter, c'est compliqué dans un endroit comme Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince est réduit au niveau du territoire, c'est très réduit, hein, ça va vers Rodelma et Pétionville, c'est un tout petit espace, voyez, et même des gens qui ont des attaches dans les régions, dans les villes de province, ils peuvent pas quitter Port-au-Prince parce que les axes principaux, ben, sont occupés par les gangs. Alors, c'est une situation très compliquée. Et la communauté internationale de comprendre que Haïti aujourd'hui a besoin de support pour vraiment faire face à cette violence aveugle qui s'abat sur une population sans défense.
Un propos recueilli par Myriam Sanduno. Le Ghana, en deuil, a perdu 2 ministres dans un accident d'hélicoptère ce mercredi. Ceux de la Défense et de l'Environnement ont péri au sud du pays. Le dernier se rendait à Genève pour participer aux négociations de l'ONU sur la pollution plastique. Une grande voix de l'Église en Afrique reçue par le pape Léon XIV ce jeudi au Palais apostolique, le cardinal John Onayekan, 81 ans, archevêque émérite d'Abuja au Nigeria. Et c'est accorder une audience privée. Et l'évêque de Rome a aussi reçu tardivement dans la matinée une délégation du patriarcat de Venise composée de détenus accompagnés du patriarche Moralia. Ils sont venus à pied depuis la lagune pour rejoindre Rome et passer la porte sainte en cette année jubilaire de l'espérance. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de votre écoute et fidélité à l'antenne de Radio Vatican. Prochaine édition d'information, comme tout l'été, ce sera demain matin à 8h30. Très belle journée.